Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, cinéma au programme du réveil culturel comme tous les mercredis. Et aujourd'hui, on va parler de Capharnaüm, le film de Nadine Labaki qui n'est pas passé inaperçu cette année à Cannes où il a été présenté en sélection officielle. Certains voulaient même que ce film décroche la Palme d'Or, d'autres étaient plus réservés. C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui erre dans les rues de Beyrouth, un réfugié syrien. Peut-on parler de la misère humaine en faisant dans le beau, dans la mise en scène majestueuse? Ça, c'est le point de vue de ceux qui sont très réservés vis-à-vis du cinéma de Nadine Labaki. D'autres, au contraire, trouvent que ce film est parfait, qu'il arrive au bon moment et le compare au chef-d'œuvre de Roberto Rossellini, Allemagne année zéro. Ce matin, au micro du Réveil culturel, Nadine Labaki s'explique.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Nadine Labaki.
Bonjour.
Ici, on commençait par le titre du film. Est-ce que ce titre s'est imposé au moment de l'écriture du film, au moment du tournage ou carrément à la fin, c'est-à-dire au moment du montage?
Bien avant même de commencer à écrire le film. En fait, le film a commencé par le titre. Et en fait, ça a commencé par une observation sur ce qui se passait autour de nous, en fait, avec tous les thèmes qui, finalement, à ce moment-là, me travaillaient, et, le travail des enfants, c'est-à-dire le trafic d'humains, c'est-à-dire le problème des réfugiés dans le monde, l'absurdité d'avoir un papier pour prouver qu'on existe, l'absurdité des frontières, la situation des travailleurs migrants dans mon pays, l'esclavage moderne, tout ça, en fait, tout ça. Et donc je me suis dit, on a écrit tout ça sur un tableau. À un moment, je regarde le tableau, mais je me dis, mais c'est un Capharnaüm, on vit dans un Capharnaüm. Et c'est comme ça que le titre du film est sorti. Donc le titre va s'appeler, le film va s'appeler Capharnaüm. Et c'est comme ça que tout a commencé en fait, avec un titre.
Ça sonne bien en arabe, d'ailleurs, Capharnaüm.
Capharnaüm en arabe. Mais c'est pas facile. Hein. Pas beaucoup de monde en fait savent ce que ça veut dire. Pourtant, moi, j'utilisais beaucoup ce mot dans mes dissertations quand j'étais petite à l'école, que ce soit en arabe ou en français. Je ne sais pas pourquoi je connais très bien ce mot, en fait. Et je l'ai toujours utilisé, mais je me rends compte et je suis très surprise, en fait, qu'il y a peu de gens qui savent ce que ce mot veut dire. Ce que ce mot signifie, finalement, parce que finalement, c'est aussi le nom d'un village. Mais à travers le temps, ça a commencé à être utilisé pour signifier l'enfer, le chaos, le désordre.
Et le bazar, il y a aussi un petit côté qui pourrait être sympathique.
C'est vrai, ça aurait pu. Parce que oui, c'est vrai, dans ce bazar, il y a des choses sympathiques. Et d'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup de choses sympathiques qui y arrivent aussi. Oui, c'est vrai que dans le bazar, on peut s'amuser aussi.
Il y a dans votre film, Nadine Labaki, Capharnaüm, deux courants qui font vibrer vraiment ce film romanesque. Il y a bien sûr la fibre sociale, c'est l'histoire quand même d'un jeune enfant de 12 ans, d'une famille de réfugiés syriens dans un quartier bidonville de Beyrouth. Et puis il y a la fibre du film de tribunal avec le procès. Je le dis et j'insiste parce que j'ai l'impression que ça revient souvent dans le cinéma libanais. Hein. On se souvient qu'il y avait aussi cette scène de tribunal dans le dernier film de Ziad Douairi, L'Insulte, comme si les Libanais voulaient régler des comptes, voulaient, non?
C'est sûr qu'on veut régler des comptes avec la justice, ça c'est sûr. Et bon, mais c'est un pur hasard en fait, qu'on s'est tous les deux retrouvés avec des films dans lesquels il y a des tribunaux. Mais oui, en fait, peut-être qu'il y a ce désir, oui, de questionner la justice, de questionner le système, de questionner comment se passent les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à remanier, beaucoup de choses à repenser, et rien ne va plus dans nos systèmes, donc... Peut-être inconsciemment, oui, il y a quelque chose qui nous a poussé à re-questionner ça.
En utilisant le code du genre du film de procès.
Je ne sais pas si là, j'ai vraiment, dans mon cas, moi, utilisé le code du genre, les codes du genre. En fait, ça s'est fait de manière très instinctive. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, les codes du genre, en fait. Ce qui s'est fait, c'est vraiment de manière instinctive, de passer de ce tribunal à la vie de ce garçon pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui l'a amené à faire cette requête et réclamer, finalement, son droit. Et donc, mais le passage du tribunal à la vie réelle du garçon s'est fait plutôt de manière instinctive, moins réfléchie, pas très analysée. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est-à-dire je n'analyse pas trop ce que je fais et j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition.
Alors parlons du personnage central, Zane, qui au cours de sa longue fugue va se retrouver en charge d'un bébé, le bébé d'une travailleuse sans papier, une clandestine qui vient d'Éthiopie. C'est une manière aussi, à vous Nadine Labaki, de parler de cette autre immigration, parce qu'effectivement l'actualité de la guerre en Syrie nous tient au courant, des réfugiés syriens qui arrivent au Liban. En revanche, on sait un peu moins sur cette immigration africaine au Liban.
Oui, en fait, c'est aussi un autre problème que j'avais envie en fait d'explorer, puisque c'est le cas de beaucoup de gens qui en fait cohabitent dans ce pays, partagent le pays, mais qui en fait très souvent vivent de manière clandestine, parce que en fait il y a un système de parrainage au Liban qui est très injuste. En fait, ces femmes, pour pouvoir vivre dans le pays, elles doivent être parrainées. Et donc c'est impossible, c'est une espèce d'esclavage moderne. La société se plie à ça et ne questionne pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'injustices qui se font parce que, en fait, ces gens n'arrivent pas à vivre, c'est comme une prison en fait, ils n'arrivent pas à vivre en dehors de ce parrainage. Et donc elles finissent par vivre de manière clandestine parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir, de vivre sous l'emprise d'un parrain ou d'un employeur. Et donc, je voulais aussi m'attaquer à ce problème, qui est un vrai problème de société. Et donc, ce sont en fait des vies et des problèmes qui se côtoient dans ces ceintures de misère qui entourent nos cités, qui entourent nos pays. Donc, ce sont des gens qui finalement vivent le même combat, que ce soit les parents de Zane, que ce soit Zane, que ce soit cette communauté justement de migrants travailleurs qui vivent souvent de manière clandestine dans le pays, qui essaient de survivre comme ils peuvent. C'est des problèmes en fait qui se côtoient au quotidien, ça s'entremêle en fait. On ne peut pas parler d'un problème et ne pas parler de l'autre. Et souvent, ce sont aussi des gens qui ont besoin d'un papier pour prouver qu'ils existent. Et donc, je voulais aussi parler de cette absurdité-là, c'est-à-dire que pourquoi nos systèmes se sont retrouvés dans cet engrenage qui fait que, en fait, un être humain qui n'a pas de papier n'existe plus. Pourtant, il est bien là, en chair et en os. Mais en fait, l'absurdité fait qu'il n'a plus droit à rien s'il n'a pas ce papier. Il n'a plus droit à rien, à l'éducation, au travail, à l'hospitalisation s'il lui arrive quelque chose. Et donc, ils finissent par vivre comme ça, en marge de nos vies, en marge de nos sociétés, de manière complètement invisible. Ça devient des invisibles, des exclus du système. Donc, pour moi, c'était important de parler de tout ça.
Et en même temps, Nadine Labaki, ce phénomène-là est assez paradoxal. C'est-à-dire que le Liban, qui était un pays très longtemps en guerre, qui était le pays qu'il fallait quitter pour une immigration, devient une terre d'accueil.
Ça devient un refuge. La contradiction, oui, la contradiction. En fait, c'est un pays qui croule sous les problèmes et sous la crise financière et économique, mais qui quand même... Il y a encore ce brin d'humanité, ce côté, cette chaleur humaine qui fait que oui, on accueille encore des réfugiés syriens et on en a accueilli plus de 2 millions jusqu'à maintenant. Et ça fait presque la moitié de la population. Donc vous pouvez imaginer le poids que porte ce tout petit pays en fait. On dit même qu'il est invisible, c'est-à-dire même quand on était petit à l'école, la maîtresse nous montrait elle nous disait, mais vous voyez ce petit point invisible sur la carte ? En fait, ça, c'est le Liban. Vous pouvez imaginer, ce petit point invisible a recueilli en fait la majorité des réfugiés à travers le monde. Voilà.
Alors justement, Nadine Labaki, ce que vous venez de dire, c'était aussi l'argument qu'avaient les gens qui, en Europe, voulaient accueillir plus de migrants. Et ceux qui étaient contre, bien entendu, quand on leur donnait l'exemple du Liban, ils rappelaient que le Liban accueillait peut-être ces réfugiés, mais c'est pour les parquer dans des camps de réfugiés et qu'ils n'avaient aucun droit en dehors de ces camps de réfugiés.
Comment voulez-vous que le Liban puisse trouver de vraies solutions quand le problème est énorme? C'est normal que la situation des réfugiés syriens soit très difficile, c'est normal. Le pays même croule sous ses propres problèmes, n'arrive pas à trouver. On a une crise de poubelles, par exemple, à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. C'est pour vous dire une crise on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, on n'a pas, donc, vous pouvez imaginer un peu les problèmes sous lesquels le Liban croule. Donc, c'est normal que les réfugiés soient dans ce genre de situation. Mais ça ne veut pas dire que le monde ne devrait pas accueillir plus de réfugiés. C'est n'importe quoi, ça. C'est une excuse bidon, je trouve, parce que finalement, ce sont des êtres humains qui fuient la guerre, qui essayent de vivre, qui essayent de survivre. Et donc, il est grand temps, je pense, que le monde se partage cette tâche, cette responsabilité. On vit tous sur cette terre. D'accord, il y a, bon, l'absurdité des frontières et tout ça, mais je pense qu'il est temps que l'humanité se partage ce poids. Ce n'est pas juste à certains pays ou à quelques pays de finalement décoper.
Avec Nadine Labaki ce matin pour parler de Capharnaüm qui sort donc au cinéma. Ce film, quand il a été présenté à Cannes, n'a laissé personne indifférent. Il y a beaucoup de gens qui l'ont défendu, d'autres qui ont émis des réserves, notamment sur le fait de tourner avec des enfants. Alors on sait que c'est jamais commode de faire jouer les enfants. Surtout quand autour du film, on a appris que l'enfant qui jouait le rôle du réfugié syrien était réellement un jeune d'une famille de réfugiés syriens. On vous a reproché le côté mélodramatique, d'avoir joué un peu trop sur les ralentis, les musiques qui accentuaient le côté dramatique. Bref, on a même parlé d'esthétique de la misère, Nadine Labaki.
Il y a cette tendance, en général, dans le cinéma, surtout français, à la retenue, c'est-à-dire retenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot retenue veut dire retenir les émotions. Et c'est un mot qui, en fait, me donne une allergie. C'est un mot que je déteste tellement parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire retenir une émotion que votre corps, en fait, a naturellement. Retenir, être dans la retenue. C'est un mot qu'on aime beaucoup maintenant, en fait. C'est une tendance, c'est une mode de que tout soit dans la retenue, que tout soit pas dans l'émotion. En fait, on a du mal, et même quand on ressent une émotion, j'ai l'impression qu'on la combat, cette émotion. On n'a pas envie qu'elle sorte. Et cette larme, on la retient, on n'a pas envie qu'elle coule. Mais je comprends pas cette tendance. Franchement, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que maintenant, il faut que le cinéma soit sec, sans musique, sans âme, sans émotion, sans... Je comprends pas, en fait, ce cynisme vis-à-vis de ça, vis-à-vis des émotions. J'espère que ce cynisme ne m'atteindra pas, parce que finalement, ce genre de commentaire est quand même blessant quand on dit... C'est blessant quand on parle de vrais enfants qui viennent dans ce film parler de leur vraie misère, parler de leur vrai combat, de leur vraie souffrance. C'est très blessant ce cynisme vis-à-vis d'enfants qui vivent réellement la même chose, et de dire c'est de l'esthétique de la misère, de montrer des enfants qui souffrent, ou de montrer des enfants qui pleurent, ou qui... C'est très facile de parler de ça quand on vit je sais pas où et qu'on écrit son article dans un café à Paris. En fait, la vérité et la réalité est bien pire que ce qu'on voit dans le film. Et je comprends pas. Finalement, ça déstabilise un peu parce que je me dis, mais est-ce qu'ils ont raison? Parce que finalement, on détient pas la vérité absolue. Surtout quand on a le nez plongé dedans depuis 4 ans et que j'arrive pas, en fait, à avoir la distance qu'il faut. Peut-être que dans quelques années, j'aurai le même avis qu'eux, je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire. Ce mot misérabilisme, esthétique de la misère. Même il y a un mot génial que j'entends, c'est misery porn, la pornographie de la misère. En fait, c'est un mot que j'ai appris à Cannes, avec les critiques, quelques critiques qui n'ont pas apprécié le film. Et ce sont des mots qui déstabilisent, qui blessent, qui, en fait, on ne sait plus trop.
On va écouter justement Michel Simon qui, il y a 2 semaines au micro du Réveil culturel, disait ceci.
C'est pas parce qu'on parle des enfants qu'il faut être larmoyant, mélodramatique, appuyer son message. On est d'autant plus bouleversant que l'on ne prend pas des gros sabots. Et ce qu'il faut regretter dans ce film de Nadine Labaki, c'est l'insistance avec laquelle, et elle-même, elle joue l'avocate de ce petit garçon qui conduit ses parents en justice pour lui avoir donné naissance. Enfin, n'en jetez plus, la cour est pleine.
Ce n'est pas parce qu'on parle des enfants qu'il faut être larmoyant ou mélodramatique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadine Labaki ?
Bah, je vois pas qu'est-ce que ça veut dire larmoyant et mélodramatique finalement. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est utiliser de la musique quand il y a certains moments où il y a de l'émotion, ou qu'est-ce que ça veut dire en fait larmoyant. Enfin, c'est un film qui est très documentaire, qui a été tourné vraiment de la manière la plus démunie possible. On a tourné dans des vrais décors, dans des vraies prisons avec de vrais prisonniers. C'est facile de se moquer comme ça.
On vous entend, Nadine Labaki, est-ce que vous voulez pas dire par là que vous avez fait un film avec votre sensibilité d'orientale et qu'il y a une différence aussi d'approche ?
Peut-être. Je vais pas dire d'orientale, mais de méditerranéenne, peut-être. Cette espèce de manière de parler, de gesticuler plus, de parler avec les mains, de crier haut et fort ce qu'on ressent à l'intérieur, ne serait-ce que d'observer une femme qui, par exemple, face à un problème ou une catastrophe, comment elle réagit, sa manière de pleurer. Même il y a des femmes qui s'arrachent les cheveux, il y a des femmes qui s'arrachent les habits, il y a des femmes qui s'expriment très fortement, alors que peut-être, je ne sais pas, il y a cette espèce de retenue qui est plus dans la culture européenne, et c'est peut-être là la différence. Je ne sais pas. Je sais pas comment analyser ça, mais peut-être, oui, je suis avec ma sensibilité de méditerranéenne, finalement, de quelqu'un qui exprime ce qu'il sent, qui n'a pas peur de ses émotions, qui a pas peur de pleurer, qui a pas, au contraire, je cherche ça. Que de fois, j'attends beaucoup, en fait, de ces 2 heures passées dans une salle de cinéma. En fait, ce sont 2 heures volées, en fait, à mon quotidien, parce que le quotidien n'est pas facile, on est en perpétuelle course contre la montre, donc ce sont 2 heures qu'on vole à notre vie, à notre quotidien. Donc j'attends beaucoup de ces 2 heures. J'attends d'être émue, remuée, bousculée dans mes convictions, j'attends d'en sortir, changer quelque part, de recevoir un coup de poing, je mets beaucoup d'attente quand je regarde un film.
Y compris la question sous-jacente pendant Capharnaüm, Nadine Labaki, quand l'enfant accuse ses parents de l'avoir mis au monde, vient cette réflexion qui peut paraître insupportable, c'est-à-dire, est-ce que les pauvres ont le droit de faire des enfants s'ils n'ont pas les moyens de les élever ?
Enfin, c'est trop, je pense que c'est un peu trop, ramener le film à un problème très, le minimiser en fait, et ou le résumer. Mais avec ça, c'est pas du tout le propos du film. D'ailleurs, les parents sont les premiers victimes de ce système qui n'arrive pas à leur trouver de solution. Ça serait injuste, en fait, de dire ça. Ce n'est pas le seul propos du film. La responsabilité des parents, évidemment, au moment de concevoir, est importante. Il est important de savoir que on peut pas ramener un gosse et le jeter à la rue comme ça. En fait, il y a une certaine responsabilité. Un enfant est un être sacré. On peut pas le traiter comme une chaise, on peut pas le traiter comme, et s'attendre à ce que la vie l'élève toute seule. Mais c'est pas ça juste seulement qui est en compte. On traite pas seulement de ce problème-là. Malheureusement, il y a des enfants que j'ai rencontrés, en fait, qui ne connaissent même pas leur date de naissance. C'est-à-dire, ce sont des enfants à qui on leur demande, quel âge tu as? Il dit à peu près 12, 13 ans. Mais est-ce que tu sais quand est-ce que tu es né? Le jour, la date exacte de ta naissance? Il me donne des références comme ça. Ma mère m'a dit, je suis née un jour où il y avait la fête de je sais pas quoi, ou je suis née au Ramadan ou à Noël. Et donc, en fait, ce sont des enfants à qui personne n'a célébré la venue au monde. Donc, personne ne lui a dit, je suis heureux que tu sois là, je souffle une bougie pour toi, pour célébrer ton anniversaire, ta venue dans ce monde. Donc ce sont des enfants qui n'ont aucune notion de leur valeur. Quand on leur parle, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils te disent « je suis un insecte, je suis un parasite, je suis un moins que rien, je suis un chien vit mieux que moi, est mieux traité que moi ». Donc ça parle aussi, entre autres, de ça, la sacralité de cet être qui vient au monde, en fait. Oui, il y a une certaine responsabilité des parents, mais ça veut pas dire... Le propos n'est pas de dire « les pauvres ne devraient pas avoir des enfants », loin de là. Et ça serait injuste, en fait, de résumer le film à ça.
Est-ce que la vie de cet enfant que vous avez connu et qui a incarné presque son propre rôle a changé avec le film Nadine Labaki ?
Oui, énormément. C'est-à-dire il a pris une autre direction. Et depuis le retour de Cannes, Zen a été réinstallé en Norvège avec toute sa famille, avec ses frères et sœurs. Il dort dans un lit et là, il a vraiment une très belle maison avec un jardin au bord de l'eau. Il se balade dans la forêt avec les gazelles et il est parti à l'école pour la première fois de sa vie il y a un mois. Et donc Zen retrouve son enfance maintenant. Il y a quelque chose, même dans les photos quand je les observe, il a un sourire d'enfant.
Et il a un pays perdu à jamais donc.
Je l'espère pas. J'espère qu'il pourra un jour rentrer dans son pays. Je souhaite à tous les réfugiés du monde en fait. Mais pour le moment, au moins, il a retrouvé sa dignité. Il pourra apprendre apprendre à lire, à écrire, savoir lire une pancarte s'il est perdu un jour dans la rue. Et malheureusement, il avait même pas droit à ça. Il a jamais été à l'école, donc Zen était dans une situation très difficile. Il était presque voué à l'échec, je pense. S'il serait resté au Liban, avec tout ce qui se passe, avec cette précarité de la vie et le danger dans lequel il vivait. Parce que c'est dur. C'est autant dur pour les Libanais que les Syriens. La situation est vraiment très dure.
Qu'est-ce qui a changé fondamentalement à Beyrouth depuis le début de la guerre en Syrie, depuis l'arrivée des réfugiés fuyant cette guerre?
Le paysage libanais change petit à petit. Rien que de voir ces enfants dans la rue, cette vision d'enfants dans la rue qui n'arrête pas de croître, en fait. Ils sont là tout le temps. Et on ne parle pas d'une dizaine d'enfants, on parle de milliers d'enfants qui sont dans cette situation. Des enfants qui ne sont pas déclarés, des enfants qui, en fait, n'ont droit à rien. Parce qu'ils ne sont pas déclarés, donc ils n'existent même pas. Ils n'ont pas droit à l'éducation, pas droit à travailler plus tard dans la vie convenablement, ou même à être hospitalisés s'il leur arrive quelque chose. Donc ces enfants finissent par grandir dans l'anonymat, dans l'invisibilité. C'est des enfants qu'on ne voit pas. Il y a des enfants même qui, sous le poids de la souffrance, je parle de souffrance atroce, je parle d'abus, je parle de viol, je parle de maltraitance, je parle de négligence extrême. Ce sont des enfants qui sont tellement négligés, en fait, qu'ils ne réagissent plus. En fait, c'est des enfants sous le choc.
Diriez-vous que c'est la même chose pour les réfugiés palestiniens qui ont connu le même problème, c'est-à-dire arriver dans un pays en tant que réfugié?
On peut pas généraliser, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui sont dans la difficulté aussi, qui vivent un peu la même chose. Mmh. On peut pas généraliser, on peut pas dire que ça l'est, même pour les réfugiés syriens, ça n'est pas le cas de tous les réfugiés syriens qui vivent au Liban. Mais la situation est très très difficile et il faut trouver des solutions, en fait. On peut plus continuer à vivre comme ça. Pour moi, l'essentiel, c'est l'enfance. Qu'il soit syrien, palestinien, libanais, éthiopien, africain. Pour moi, l'essentiel, c'est l'enfance. Ce sont des enfants qui, finalement, n'ont pas demandé à être là. Et ce sont des enfants qui sont en train de payer le prix de nos erreurs à nous, les adultes. Ils payent le prix le plus cher, en fait. Ils payent le prix de nos guerres, de nos conflits, de nos mauvaises décisions, de nos systèmes défaillants, de nos gouvernements défaillants. Donc, l'ambition, c'est de mettre tous ces sujets sur la table et d'en parler. Comment d'abord peut-on sauver ses enfants? D'ailleurs, si on leur demande à eux, à chaque fois je posais la même question à tous ces enfants que j'ai rencontrés, est-ce que tu es heureux de vivre? Et la réponse, d'ailleurs c'est pour ça que c'est de ça que le film est inspiré, que cette quête est inspirée, il dit non, je ne suis pas heureux de vivre, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi on me donne la vie si on ne va pas m'aimer, si on ne va pas me nourrir quand j'ai faim, si on va me maltraiter, me violer, m'abuser, me traiter de tous les noms aussi, si je vais être autant négligée. En fait, ce sont des enfants qui sont très en colère. Parce qu'ils ont, aussi la sagesse de la rue, la sagesse de la souffrance. Ce sont des enfants qui ont vu beaucoup de choses. Donc ils comprennent que ce qui leur arrive n'est pas bien, n'est pas correct, n'est pas juste. Et donc pour moi, c'est la source du mal dans le monde, c'est l'enfance mal aimée. Et c'est de ça que j'aimerais parler.
Merci Nadine Labaki, Capharnaüm sort aujourd'hui au cinéma.
Merci à vous.
I'm wasting all your news. It doesn't matter.